Nous allons commencer notre dernière séance de l'année. Je vous souhaite à tous la bienvenue et bien sûr de bonnes fêtes. Je vous signale d'ores et déjà que la prochaine séance se tiendra le 13 janvier. Elle accueillera Gabriel Alten qui viendra nous parler de René Char. Y a-t-il des annonces ?
Oui.
Oui. Ah oui.
Au festival Bâton de Parole, j'aurai le plaisir de présenter avec Lucienne Deschamps aussi présente la vie et l'œuvre de Cécile Sauvage. Alors c'est à 16h30 à Malakoff. Et Lucienne a ici le...
Il m'en reste deux pour vous donner l'adresse. C'est 11... de Jules Ferry.
Voilà, c'est tout.
Le créneau de l'école Jean Jaurès.
Donc demain, festival Bâton de Parole, c'est tout l'après-midi. Mais à 16h30, il s'agit de Cécile Sauvage, la mère de Olivier Messiaen, qui est une poète bien méconnue et qui est une poète de l'amour, un chanteur de l'amour et de la maternité. Et de l'amour.
Merci. Claire ?
Oui, oui, il y a une annonce. Alors, une annonce le 19 décembre, qui est un mardi. Mardi 19 décembre à 20h, il y aura un hommage au poète Frédéric Tison, qui est malheureusement mort le 13 novembre dernier. Et donc, hommage Café de la mairie, place Saint-Sulpice, 6e arrondissement, à 20h. Un hommage libre, hein, c'est-à-dire que les personnes qui l'ont connu pourront venir parler de lui, lire des textes qui ont été écrits sur lui. Il y aura aussi quelques lectures de ses recueils de poèmes. Et voilà.
Merci. Eh bien, on va rester avec toi, Claire, puisque effectivement, nous déplorons le décès de Frédéric Tison, qui a été un prix Aliénor. Il est mort jeune, et il faut à tout le monde qu'on nous rende hommage. Donc, Claire, si tu veux lire un poème.
Il a fait partie du comité.
Oui. Oui. Oui.
Je
ne peux pas lire le... Oui, oui, oui. Ceci dit, je crois que Daniel l'a
vu. Oui, c'est très bien. Oui, tout à fait. J'espère bien. J'espère bien.
Alors ça c'est un poème parce qu'il a beaucoup écrit donc sur la ville et aussi sur la nature, parfois avec conjonction des deux, parfois dans la nature il voit la ville et dans la ville il voit la nature. C'est un peu un mélange. Enfin là c'est surtout un poème sur la ville, donc la ville en l'occurrence Paris puisqu'il habitait Paris. Clarté des fenêtres, ville d'une eau plus claire que le monde, et tes pas qui font un bruit de verre et de brise. Allume encore ces lampes de neige, que l'écume en déborde les avenues, parmi l'éveil de fleurs plus nues. Ce sont là celles où tu achèves de me voir, celles où tu n'es pas vaincu par le soir. Clarté des fenêtres, par où te fait signe mon histoire. Je peux en lire un autre, hein, parce que vous, N'importe l'ordonnancement de mes vastes pays, jardins et demeures, j'ai cherché l'œuvre où je me trouverais beau, épars, aimant et entier, ému selon l'aube et le soir de mes étonnements.
sueur, tous mes visages, mes torpeurs. Je fus prisonnier d'une eau sévère où désormais j'émerveille et dans tes yeux règne et me repose.
Voilà. Merci Claire. Merci.
Jean-Noël, tu voulais dire quelque chose?
Non, d'accord, ça y est. Bon, d'accord.
Très bien. Bien, donc. Non, mais par contre, on peut préciser qu'on fera un hommage à Frédéric ultérieurement. Voilà.
Ben, on commence donc cet après-midi par un hommage à Jeanine Baud.
C'est moi qui commence.
Janine Salès, on va commencer. On peut présenter l'œuvre de Jeanine Baud par bien des côtés. Je pourrais lui rendre hommage en tant que grande poète et amie des poètes qu'elle soutenait. D'autres le feront. Mais je l'aborderai comme on le fait d'une terre, son amour pour l'île d'Ouessant, où elle se rendait une ou plusieurs fois par an, dans les meilleurs cas. Elle y possédait une maison de pays dont elle avait gardé en partie l'aménagement traditionnel, notamment le coin repas avec ses assiettes typiques fixées au mur et ses deux cheminées. Elle aimait Ouessant, son climat rude ou plus clément. Elle n'hésitait pas à nager le matin dans l'eau très froide. Tous les jours, elle parcourait l'île, suivait les sentiers, longeait les rochers, y grimpait, cueillait les mûres en saison. Face à sa maison, elle avait un jardin planté d'agapanthes et d'hortensias, comme un petit parc. Le long de la clôture, les gens adossaient leurs vélos et filaient se baigner à la plage toute proche. Elle admirait les cinq phares de l'île, particulièrement celui du Créac, dont on voyait la lumière à travers les fenêtres étroites des pièces du premier étage. Elle marchait dans la lande entre les tapis d'Armeria, les ronciers, les ajoncs. Elle suivait la côte où l'on surprenait parfois des dauphins. Elle s'asseyait sur les rochers en attendant que le soleil s'affaisse dans les vagues, ce qui ne l'empêchait pas de voisiner avec de nombreux amis du bourg de l'Ampoule. Le climat stimulait son corps, ses idées, sa poésie. Bien de ses recueils ont été inspirés par Ouessant. Ainsi, le livre « Île, corps, océan » dans lequel elle écrit « L'île est un jardin à elle seule, une tenaille où la mer étreint la mer. » Dans le livre « Un bleu d'équinoxe », elle précise « Je longe le verre ténu et sec, respiration, le silence, le verre étale sur le bleu. » Dans « Océan », elle nous redit que l'île est son reflet de mer, l'île en son reflet de mer convie la terre à son rôle de vigie. Dans Concerto pour une roche, la nuit encorde bien des mailles à ce filet d'aube. C'est dans Ouessant, composé avec Édouard Hébert, qu'ils écrivent « Tout change lorsqu'on habite l'île, Ce n'est plus seulement un paysage, mais une terre où jeter l'encre. Je vais lire quelque chose. New Wella. Pierre de l'exil et du torrent, compagne des toits d'ardoise, frontière de l'écume, épouse émaciée des brisants, déploie la porte dérobée, les murets attentifs. Mausolée de Proella, les murs ouessantines, adolescent nubile, fouette les flots du rameau de Genet, noce à l'essai du temps. Cortège nuptial de Limicole, andante lacérée du Gualarde, remonte l'océan et le cri du Courlis, l'homme depuis longtemps connaît sa solitude. Et voilà où elle a laissé ses yeux et son cœur, pendant qu'elle disparaissait à Paris en ce décembre 2021. Ses cendres furent données à la mère d'Ouessant en 2022. Elle a rejoint son île.
J'ai choisi de Jeannine Baud un titre bref, oui, et qui commence paradoxalement par des noms. Tous les noms de ma vie sont jachères sur le feu qui fomente en lisière des champs et de la rase de campagne. La nue déperdition du champ et celui de la roue, de la charrue qui lève le sillon, engrange la semence contre la famine des hommes, son auge, son refus. Et j'enlace ce temps de la perte et j'embrasse le vent. Mais prononcer ce oui sur le brasier, son héritage, sa coupe débordante de pierre, ses bijoux de nacre et de lâcher prise, devant un ciel qui donne sa mesure de plein air, de vaste fond, de couleur à la terre. Reprendre du miracle la terrible fraîcheur, sans comédie, sans lien d'aucune sorte avec servage, avec aliénation, et siffler sur la nasse les charmes patronymes d'un blason. Émail ou camé, quand s'apprête à bondir tel un fauve en sa cage, la phrase dématée et cursive et roulant comme le sang aux tempes.
On a besoin de bruit alors.
Tous les noms de ma vie sont flammes en ce jour de sang sur Paris endeuillé et des feuilles à l'hypnos. Je réitère la rage. Le courage secret, celui qui vient de loin, habiter nos boyaux, notre esprit, notre marche. En vainqueur, je chante l'oriot du plus pauvre, celui assassiné. Mais prononcer ce oui avec force et tenir haut la parole au-delà des lâches spécieux, des voiles enferrées de leurs mortels assauts, courir encore et libre, animé de ce désir qui renforce l'âme et réveille les maux du salut et du souffle. Oui, respirer en avant d'une blanche splendeur, drapeau levé sur la paix, le royaume de la chair, sonner l'adieu de l'épaisseur obscure, prendre faits et gestes contre la vague, son roulis si elle course, la fatwa, et le sang sur le pain, la table, le concert de nos jours. On a plusieurs années qu'il faut. Et c'est remarquable que ce poème, enfin, ce poème en 21 poèmes, construit exactement sur ce même schéma du nom du oui.
Lucienne.
Oui. Alors j'ai ouvert le livre au hasard pour voir ce que Janine avait à nous dire aujourd'hui. Vallon, entre mer et bruyère, si précis dans son flot de brume, accidenté en sa surface, où le pas d'une femme saute la haie. Il descend entre les arbustes touffus vers ce vide où je baigne dans l'attente de preuves. Énigme convoitée du feu qu'il cache, recèle de ses trésors amoncelés, la terre tremble comme écharpe de misère jetée à la mer, et l'homme, soudain dressé, découvre dans le creux de cette épaule l'âcre parfum du sel, pareil à ce sein de femme, à sa gorge gonflée. Repère du plaisir dans l'envoûtement de l'étendue liquide, dialecte des routes finissant dans les rocs, rapide approbation du rire sous la courbe émoussée d'une pierre entrevue dans l'ombre des vestales.
Extrait de Incarnat désir. Incarnat désir, glaïeul à mes lèvres, et le chant courroucé des herbes dans le soir. Dans le jardin de menthe et d'aubépine fraîche, je caresse ton sein, ô map-monde. J'oublie la certitude. Et ce temps du faire et du savoir, je hume le parfum des fleurs. J'écoute à ton épaule de brume le blanc dépouillement des oiseaux migrateurs, leurs cris dans ta bouche, leur duvet, la braise de mes doigts sur tes larmes. Je vais lire aussi le poème qu'elle m'a donné pour ma revue quelques jours avant sa mort. Ton écorce, c'est ailleurs de toi, c'est là, ça vous ensommeille le creux des reins. C'est là, comme la ligne sur la page qui ne produit rien. Un silence obscur, une quête pourtant, tes 10 doigts sur le clavier. Si les vagues, la tempête remonte jusqu'au ciel, les mains suivent. Tu as appris comment est-ce possible cette acmé. Tu serais au fond d'un lit, non pas comme un gisant, seulement une trace à peine visible. Résistes-tu, si le tissu, si l'ombre t'éloigne du feu, même l'océan te bouscule. Il y a ce voyage, finira-t-il au-delà du semblable, au-delà du même? Tu cherches l'horizon, la main tendue, elle chante pour toi. Il y a ce vent, cette tornade autour de toi, comme une parallèle impossible. Dans quelle géométrie évacues-tu ce silence? Les bouteilles de Morandi ne suffisent pas. Qu'est-ce que tu sais de la Turquie, de ce pays en souffrance? Tu écris pour eux leur route dévastée, et sans issue, leur prison. Cette main du silence de Bologne te conduit. Tu peux mieux comprendre le vide qui fait l'effroi. Appeler, comme peut-être refuser. La note juste, où est-elle? Piano World, New York, Gertrude Stein. Des errances si nécessaires. Dans ce lit, elle t'emporte. Ta rivière continue de couler. Tu glisses dans une douceur étrange, cette orangée crépuscule, ce miroir. Regarde, mon prince est là.
Alors j'ai choisi un très court extrait dans son dernier livre, Les roses bleues de Ravensbrück, qui se termine par les mots allemands résister, Widerstehen. des roses bleues de Ravensbrück. Malgré les camps de concentration, l'esprit de résistance. Ah, les champs de blé, les prairies à coquelicots, les bleuets, la rivière, son assaut tranquille, son cours. Si sa course vers la mer, je la suis, je ne déshonorerai pas mes ancêtres, mon blason de vie, ce rouge franc. Je sauverai ma peau, sauter d'un pont et nager, nager, nager. Ô rive, chemin de halage et le pas des chevaux, la lente avancée, là aussi sereine. Sereine de temps en temps, regardant par la fenêtre, mais les peintures de musique, mais le désir. Il a survécu à Venise, après il a peint, dans la joie peut-être. Sereine, comblée, la vie coule comme rivière coule, je me laisse aller dans le bonheur, oui, dans le bonheur. Dans ce détachement, oui, détaché jusqu'à l'extrême, on peut survivre et être heureux. Heureux parce que la lutte est si forte qu'elle emploie toute l'énergie du corps. L'adrénaline en rappelle, l'adrénaline, le désir. Comme grappes de raisin dans la mer, vos perles, vos silences. Je bois à vos manques. Ce trou d'où je naquis, écrivit Pérec. Je m'y loge, je... Dans la mouvance du fleuve, les tourbillons, les rives, les passerelles, les planches de salut, je m'y loge, je. Imaginez un instant la danse infernale, tomber, se relever, glisser, se noyer, remonter étouffé, suspendre, reprendre le souffle, le poème. L'adresse à la voix, Adrienne, Sophie, Adèle, le cri. Pourrais-je avec force expurger la moitié du quart de la puissance de vos cris dans ma camisole, mon tourment, ma misère, maladie que je ne nomme pas sur cette portée musicale. Vos paroles, vous, j'écoute du jazz, je danse, on a dit danser. J'entends mon père siffler, la guerre, lui aussi, stopper la vie. J'exhume les corps, tous les corps. Dans le paysage, cela fait monticule sur monticule. D'où c'est terrible, d'où du noir, ma pensée déborde. Croire qu'avec une pelle et un saule on peut tout raviver, construire, requalifier, vallon de la contre-terreur. Ô parole du poète, ô parole des déportés. Moi, avec ma pelle et mon saule, ma pensée débordée, déraper si je dérape, qui pour chanter à l'unisson, qui? Vous. Sur la jetée, la mer des deux côtés, bercez vos remerayés, bercez ma panoplie, ma mascarade, le danger en moi, brûlant, brûlé, ô mer, et je caresse vos courbes léchées d'écume, et je bois votre sel, je m'enivre, c'est comme une ronde, un rondeau en poésie. La danse, la mer des deux côtés, ô peuplier de l'enfance, en bordure des canaux, vous apparaissez derrière chaque tronc. Les arbres deviennent des palais, vos paroles soudées, le chant de Venise, le chant de musique. Vous, les roses bleues de Ravensbrück, vous entonnez mon désir à moi, Wiederstehen, Wiederstehen.
Nous allons passer maintenant à notre deuxième partie, à savoir le prix Aliénor 2023, en la présence de sa lauréate, Patricia Castex-Meunier, que j'ai l'honneur de présenter. Il s'agit du recueil Havre, avec un S. Ce qui frappe d'emblée dans ce livre, c'est l'âpreté, énoncée dès le démarrage. Le mur rêche du quotidien. Et si j'emploie le mot « démarrage », c'est qu'il est induit par par le titre « simple, fort et porteur d'imaginaire, de voyage, de traversées océaniques ». Cette note pessimiste, cependant, est modulée par ces deux vers « on a frotté l'allumette du regard ». En effet, face à la mer, il n'y a plus que les yeux qui parlent. Ce livre est un tout. Il faut lire entre les lignes, bien sûr, mais aussi au-delà des lignes. dans ce qu'on appelle parfois le paratexte. Ainsi, lisons l'exergue emprunté à Werner Lambertsy, « L'homme aimé est disparu ». Le temps passe à la vitesse du grand bambou. Le thème, l'homme et le poète, oriente notre lecture vers une légèreté inquiète. C'est un livre fortement charpenté. L'ensemble étant serré par deux quintiles dont je retiens ces deux vers à chaque fois en initiale. On dirait que le monde rétrécit, il se crispe. On dirait que le monde s'élargit, il respire, dont on relèvera la parfaite structure en même temps que l'aboutissement optimiste. Entre les deux, le temps a œuvré. Cet ensemble comprend 9 séries de 7 poèmes brefs, cette série étant elle-même encadrée par 8 poèmes en vers plus longs et encadrés en caractère italique. Les poèmes de la série de 7 sont construits selon un procédé d'écriture qui consiste à détacher un mot monosyllabique en tête de distique. Le baluchon de l'inquiétude. Comme tout procédé, bien sûr, il pourrait paraître artificiel. Il marque pourtant ici un arrêt qui devient une base, un quai à partir duquel un bateau peut à la fois arriver et partir, une amorce pour le lecteur suspendu au deuxième vers. L'autre ensemble de poèmes en caractère italique qui englobe le tout révèle un fort désir de quiétude. Je vais en citer quelques-uns. S'en remettre au bourrasque. Restez patient. Pour une fois, fermez les yeux. Exister sans peser. Ne pas aller plus loin, nous y sommes déjà. Mettre de l'ordre, faire le ménage. Réapprendre l'ignorance des gouffres. Et danser, danser au bord de la falaise. Et enfin, se dire que nous avons été heureux, se dire que nous le serons. S'émouvoir simplement de la beauté du passé simple. Ainsi se profile une volonté de sérénité marquée par multitude d'infinitifs. Leçon de vie que ces aphorismes qui nous offrent à profiter des instants. On peut aller peut-être plus loin dans une leçon philosophique. Exister sans peser. D'un geste matinal, servir la parcelle de ce monde qui nous fut attribué. Apparaître, puis disparaître, n'être que rosée sur la fleur accueillante. Cette volonté, en même temps que la rigoureuse architecture de ce livre, qui permet une sorte de rideau, une protection, une carène, révèle de profondes blessures comme cette trop jeune morte qui nous manque. Et ce grand chêne abattu, comme à l'église on avance un cercueil. Et cette interrogation, mais combien de temps faut-il pour maquiller les morts? Ou encore, sur la pelouse croisse le corbeau. La pensée noire a les ailes rognées. L'oiseau s'envole, elle reste là. Précisément, le poète tient à garder les deux pieds sur terre et ne pas être trop envahi par ses idées noires, par la bête de somme de la pensée. Elle sait que le nœud de l'angoisse n'est jamais qu'un nœud, pour revenir à la métaphore maritime. Même parfois, on peut lire des accents fantastiques. Qui nous l'interdirait ? Chez nous, ce soir, invitons un arbre, un de ceux du boulevard, qui, ce matin, bien aligné, attendait patiemment de pouvoir traverser. Cet accent d'humour est bienvenu qui évoque en outre le sentiment proche de la nature comme on le voit avec les fleurs et les oiseaux. Car la mort, en effet, ne résiste pas au spectacle de la nature. Quelqu'un, quelque part, vient de mourir, mais à l'instant, haut dans le ciel, passe un vol de migrateurs. Cette migration intervient au printemps, quand la vie reprend, parce que la totalité du monde se tient en juin. À côté, à rebours ou en opposition aux vastes espaces maritimes vers lesquels le titre nous emmène, Patricia Cassec-Meunier restreint volontairement son champ de vision. Personne ne connaît jamais le monde entier. Il reste toujours cet angle de jardin, son paysage d'herbes folles, sa colonne de fourmis. Et elle clôt son poème affirmant que le bonheur n'existe qu'en détail. Elle affirme même que les voyages se tiennent dans la main. Et en effet, plutôt que d'affronter les océans, Patricia Cassec-Meunier, comme Voltaire, entend profiter de son jardin. Tout s'ouvre. Une odeur, un son, le geste de la vague, le goût d'un mot entre les lèvres, l'appui de l'écorce sous la paume. Ne pas aller plus loin, nous y sommes déjà. Je crois que c'est une véritable leçon de vie que nous enseigne Patricia, ou comme dans l'art poétique de Verlaine, sans rien en lui qui pèse et qui pose. Entre l'immensité de la mer et l'espace réduit du gazon de la maison, il n'y a cependant pas d'opposition, plutôt un va-et-vient, un complément qui permet de mieux apprécier l'espace du temps. On dirait que le monde s'élargit. Il respire. Le temps bat sur la place. On dirait qu'il se pose. Éveil chaque matin, debout dans un désir de traverser, on ouvre la fenêtre comme on se tient sur le quai d'un port, attendant, confiant, qu'accoste la clarté. Le poème reprend la métaphore maritime. Le personnage attend le désir. Il se cantonne dans le regard, comme nous l'avons vu plus haut. On a frotté l'allumette du regard. On assiste très certainement à l'émergence d'une certaine sérénité que confirme ce poème. Cultiver l'absence de regret. Se retourner peut-être, remuer les souvenirs, mais s'émouvoir simplement de la beauté du passé simple. Cette fois, on passe de la mer à la grammaire. Dans un mouvement tout intérieur qui reprend l'usage du mode infinitif dans son désir de sérénité. Comme Pessoa à sa fenêtre, regarder l'allant des promeneurs et, moins dubitatif que le poète, se dire que nous avons été heureux, se dire que nous le serons. On sent bien ici une insistance à cause de la répétition, cette même répétition qui ouvre à la fin du poème une ouverture vers la joie. L'enthousiasme est discret. Réapprendre l'ignorance des gouffres, des distances où se tient la beauté, et danser, danser au bord de la falaise. Bien sûr, on peut penser que cette farandole proche du précipice est dangereuse, mais surtout elle donne à penser que le bonheur est d'autant plus valorisé qu'il provient précisément des obstacles franchis, qu'il frôle les gouffres et que la mer est là sous nos pieds, à la fois horizon d'attente et de désir et source de contemplation. Alors, ce havre, comme son nom l'indique, n'est-il qu'une halte, un port, une pause dans le voyage qui traverse le temps? Son pluriel nous interpelle pour nous inciter à trouver dans notre vie trépidante, dans le passage du temps, des moments de pause, d'admiration devant la nature, parce que les arbres supportent mal la solitude et que l'eau du ciel dépend tellement des événements du cœur. Et précisément, le passage du temps nous amène à réfléchir sur notre rapport aux autres et plus largement au monde, animé ou non. Saurons-nous toujours être reconnaissants? Je vous remercie. Bravo à Patricia.
Alors, un des mots les plus précieux que nous ayons,
c'est le mot merci. Il ne faut pas le galvauder. Alors là, il a toute sa place. Merci à toi, Bernard, pour tout ce que tu as vu là dans ces quelques pages. Merci au Cercle Aliénor, merci aux membres du jury. Voilà. Merci de tout cœur. Ce que je voudrais dire, merci pour quoi ? Merci bien sûr pour ce prix que je n'attendais pas. Mais je dirais plus loin encore, merci pour, de manière beaucoup plus vaste, merci pour la poésie. Et quel que soit celui ou celle qui l'a écrite. Ça n'échappe à personne que nous vivons dans un monde à feu et à sang. Et donc, si on peut, voilà un havre de plus, si on peut donner un peu d'existence à la poésie, alors certains diraient, à tort ou à raison, c'est dérisoire, c'est inutile. Mais en tout cas, c'est indispensable que la poésie ait sa présence. Et encore une fois, peu importe qui signe les poèmes. Donc voilà, je voulais vous remercier pour la poésie, pour l'espace qu'on lui donne, le souci qu'on en a en tant que ceux qui écrivent, aussi en tant que ceux qui lisent et en tant aussi que ceux qui l'écoutent. Voilà. Je lis ça.
Oui, s'il te plaît. Parce que moi, j'ai lu comme ça, mais
oui.
Je sais pas.
Alors,
comment
il va y avoir des redites, hein, parce que.
Oui, non, mais c'est très bien les redites, parce que son œuvre est tellement forte que on aime bien la réentendre. Et puis, c'est l'histoire de décalage de verre que j'ai peut-être, je ne sais pas.
Tu avais des choses, tu voulais me cuisiner, ça après.
Bon, après, je te cuisine.
Tu me
cuisines
après, d'accord. Alors, c'est vrai que j'ai choisi quelques pages et j'ai constaté que souvent, au moins en partie, ça avait été cité par Bernard, donc tant pis, hein, vous allez les entendre une deuxième fois, mais c'est tant mieux pour les poèmes en question, c'est que voilà, ils ont passé la double barre de la lecture. Donc, je vais me lever, peut-être c'est mieux.
C'est comme tu veux.
On dirait que le monde rétrécit. Il se crispe. Le temps passe. On dirait qu'il n'a jamais autant passé. Havre pourtant, dans l'anse du jour. Cela ne fonctionne pas toujours. Les tempêtes, même les plus timides, parviennent parfois jusqu'au port. Splendeurs infimes, éclats d'ordinaire présence, quelques étincelles. On a frotté l'allumette du regard sur le mur rêche du quotidien. Dommage que le vent soit tombé. Lui, le bienvenu, quand la pensée s'accordait avec la houle des arbres. On a reposé le galet. C'est un regret. Il avait une forme de cœur imparfait. Mais après tout, comme tous les cœurs, rester à notre place, autour de nous, ne déranger ni l'espace, ni la lumière, sans leur demander plus qu'ils ne peuvent nous donner. Laisser faire, laisser aller le tout, le rien, se contenter un moment de se glisser entre les deux. Puisqu'il faut bien l'emporter avec soi, on tente au mieux de le caler, de le tenir d'une main ferme sur l'épaule. Le baluchon de l'inquiétude pèse plus ou moins lourd, brinque-balle plus ou moins. Ce qui a été fait peut toujours être défait. Ainsi les nœuds. En somme, il suffirait de s'en convaincre. Le nœud de l'angoisse n'est jamais qu'un nœud. La faim, la soif, la peur sont celles des autres. Mais la rumeur nous en parvient, nouvelle fraîche de nos abandons. Elle court, enfle, se propage et tourne-boule nos sommeils sur l'oreiller. Parfois, un vent mauvais pousse en avant les hommes et les nuages. Mais les nuages échappent à l'exil. Le ciel partout reste le ciel. Le voilà. Qui nous l'interdirait ? Chez nous ce soir, invitons un arbre, un de ceux du boulevard, qui ce matin, bien aligné, attendait patiemment de pouvoir traverser. Là, ils sont presque en, ils sont en guirlande de Noël. Saurons-nous toujours être reconnaissants ? Même l'obscurité nous fait l'aumône quand les étoiles tombent à l'aube dans son escarcelle. Il ne faudrait pas, comme si tout allait toujours de soi, oublier d'applaudir. Le soleil se lève, monte, se perche, descend, se couche et recommence. L'enthousiasme est discret. On sort et au passage de l'air, la peau enregistre les petits chocs des électrons qui jouent heureux aux auto-tamponneuses. Tantôt docile, tantôt renaclant, la bête de somme de la pensée. On guide par devant, on pousse par derrière. Certains fardeaux sont bien bâtés, d'autres mal ficelés. La dernière nuit resta épaisse jusqu'à la fin. Sans arrêt, le tourment mettait la main à la pâte. Lui qui la veille encore tournait autour du pot. Je n'avais pas prévu la météo d'aujourd'hui pour lire ce texte-là, mais je vais vous le lire. Des pluies joyeuses, volubiles, rebondies, bien en chair. Ou des pluies tristes, taciturnes, étriquées, chafouines. L'eau du ciel dépend tellement des événements du cœur. Comme ce couple de merle, pourquoi ne pas sautiller, allègre, toi et moi, sur le toit du temps, la fêtière de l'instant, l'arête de la vie. Passage d'un papillon. Il va contre le vent, rapide, ne nous laissant que le temps d'envier son courage joyeux. Branche des eaux, tige des nerfs, feuille du souffle, sève du sang, c'est l'arbre du corps. À peine a-t-il des racines, on peut le renverser, quand on veut, d'une simple chiquenaude. L'instant est un château de sable, le son d'enfant, qui, cœur réjoui et chagrin à la fois, désire l'arrivée de la vague. Je vais m'arrêter là. Voilà.
Merci beaucoup Patricia, c'est vraiment de fort beaux textes et fort bien lus. Quelques personnes, s'il y a des questions éventuellement à la lauréate. Oui, moi j'en ai quelques-unes bien sûr. Notamment à propos de la lecture, je disais tout à l'heure que, bien sûr, chacun en lit différemment les poèmes, et je faisais donc cette remarque du point de vue typographique, tu mets donc un mot en début de vers et puis la suite après dans le deuxième vers. Moi j'aurais tendance à marquer cette pause, toi tu ne le fais pas.
Non.
Alors pourquoi? Simplement pour le visuel?
Alors tout d'abord j'ai toujours écrit comme ça.
Oui,
c'est pas la première fois, c'est toujours écrit comme ça. Il y a peut-être une ou deux rares exceptions, mais voilà. Et évidemment, on m'a souvent posé la question. Pourquoi ce mot détaché comme ça, le baluchon ou, même L apostrophe, hein, ça ne me fait pas peur.
Oui.
L apostrophe, hop, voilà. Alors c'est vrai que ça peut être un procédé, ça peut être un... pire, un tic, hein. Oui, bien sûr, pourquoi pas. On m'a posé pas mal souvent la question, il faut que je trouve quelque chose, c'est pas possible. Et en fait, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas écrire autrement. Et toi tu parlais d'un quai pour un départ, hein. C'est un peu ça, voilà, sauf que moi je vois ça comme une marche, c'est-à-dire un tremplin, c'est pareil un peu. C'est-à-dire qu'après tout, quand on marche, pour marcher, qu'est-ce qu'on fait? On met d'abord un pied d'abord et l'autre après. Sinon, on se casse la figure. Hein.
C'est une prise d'élan.
Comment?
C'est une prise d'élan.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est comme ça que mon poème peut démarrer, mais c'est pas... Voilà, donc c'est le premier pas, c'est un premier mot. Une fois que ce premier pas est posé, ce premier mot, eh bien, le poème peut démarrer et je le fais pas artificiellement, je crois pas. Je peux pas faire autrement. Je le sens dans le corps qui écrit, c'est le premier pas, puis la suite. Voilà.
D'accord. Cependant, voilà. Tous ces poèmes ne sont pas comme ça.
Presque tous, si. Ah, oui. Oui, c'est vrai. Oui.
Vous avez quand même une idée générale du texte.
Comment?
Vous avez quand même une idée générale sur le texte. Vous écrivez comme ça.
Bah oui, bien sûr, mais ça ne change rien au fait qu'il y a un mot d'abord, parce qu'en fait, quand on écrit un premier vers, on a aussi une idée d'où on va quand même. Hein? Voilà. Oui. 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 Ah oui, alors. Oui, c'est à cause du tiret.
Ah.
Si, saurons-nous, je n'arrive pas à me résoudre à mettre le tiret. Voilà, donc c'est un tout. Ça, c'est autre chose. C'est en italique, c'est les modes d'emploi.
C'est des modes d'emploi.
C'est un peu des modes d'emploi.
Alors, effectivement, oui, donc on ressent un peu.
Je viens d'inventer la réponse.
C'est pas bien. Alors, effectivement, c'est une histoire d'infinitif, quand
oui,
même, qui
oui,
sont
oui,
très, très
oui,
nombreux.
Oui.
Ça, bon, c'est un peu ambivalent. C'est soit une volonté de, soit un aphorisme.
Oui.
Ou bien un mode d'emploi, comme tu viens de le dire.
Oui, aphorisme serait plus court quand même, non? Non, pas forcément.
Ça dépend,
Oui, pour moi, c'est un mode d'emploi. Voilà, c'est un mode d'emploi hein, pour résister aux tempêtes.
Oui.
C'est ça. Donc, à l'infinitif. Faire ceci, faire cela. Ou au moins espérer faire ceci, espérer faire cela. Oui.
Et après avoir affronté la tempête, as-tu retrouvé la lumière du tournesol?
Ah, le tournesol. oui, pour répondre, enfin, le tournesol, j'ai écrit un petit texte qui s'appelle l'instinct du tournesol. L'instinct du tournesol, c'est toujours se tourner vers la lumière. Toujours. Il paraît que c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Biologiquement parlant, botaniquement parlant, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on ait cette image-là, c'est qu'on ait ce mythe-là. Donc, on travaille avec l'imaginaire, quoi. Oui. Oui. Ça marche pas toujours, non plus. Mais bon. Oui. Oui.
À l'audition du texte, on est frappé par l'économie des moyens, par le resserrement du futur. Il n'y a pas un mot de trop dans ces formes courtes. Et c'est différent l'audition qu'à la lecture visuelle. Parce que à l'audition, les textes que nous avons entendus, là, ont une allure de maxime. Et en plus, ils portent sur des sujets à la fois psychiques et même sociaux. Et donc, je pense que vous inspirez. Bon an, mal an, que vous, dans cette tradition très française de la maxime. Et évidemment, vous êtes quelquefois très pessimiste, comme beaucoup d'auteurs de maxime, comme La Rochefoucauld par exemple. Mais malgré tout, votre pensée reste optimiste et vous parvenez, et c'est très difficile à faire, d'exprimer une pensée optimiste avec justement une forme très courte. C'est l'expérience de lecture que j'ai depuis longtemps. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Et quelquefois aussi, on découvre soi-même la façon dont on écrit, dont on n'est pas forcément conscient. Et notamment ce qui concerne l'optimisme et le pessimisme. Bon, comment ne pas être pessimiste pour des tas de raisons, aussi bien pour des raisons. Je ne dirais pas pessimiste, enfin. Comment ne pas être noir hein? Soit pour des raisons personnelles, de vie personnelle, soit parce que nous vivons dans ce monde et nous vivons sur cette planète. Mais je ne m'étais pas rendu compte que tous mes livres, qui sont toujours construits, finissent toujours vers la lumière. Ils vont toujours du noir au clair. Mais je n'ai pas fait exprès, c'est toujours comme ça. Donc... ça doit être ma nature profonde, je ne sais pas, mais voilà.
Vous seriez optimiste malgré tout.
Non, mais c'est d'abord le travail du poème, c'est le poème.
Oui.
L'écriture du poème vise à consoler, à apaiser.
J'ai pas toujours tout compris hein, de ce que la façon dont je procédais, hein, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Vous vouliez, oui.
Sorte de sérénité.
Oui, oui, oui.
Mais oui, c'est quand je parlais du mode d'emploi, enfin, je veux dire, c'est un peu ça, hein, c'est... Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Et d'être...
Une volonté d'être positif.
Il faut accueillir les choses. Il faut accueillir les choses. Et on accueille celles qui font mal, et on accueille celles qui font du bien. Et finalement, c'est l'accueil, l'ouverture qui fait que voilà, on est là et on respire. On respire. On respire.
Alors, je ne sais pas si c'est votre lecture qui donne cette impression, mais ce n'est pas une mauvaise sérénité, parce que je le vois un peu autrement dans les formes.
Oui, 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 oui.
Je prends le monde tel qu'il est et avec mes mots, je vais transformer ça de façon comique, humoristique.
Oui, une certaine volonté.
Puissante. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire des arbres prêts à traverser.
Décidément.
Parce que il me semble que c'est notre façon de regarder à certains moments. Vous êtes à la rue, vous êtes dans la rue, enfin, vous imaginez. Et de prêter à l'environnement extrêmement simple. On y parle, il n'y a pas dans les mots justement qui donnent le plus.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je me suis pas dit bon, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire pour que ce soit, etc. C'est qu'effectivement, un jour, j'ai vu des arbres sur le trottoir et ça m'est venu comme ça, quoi. Donc voilà. Donc, je les ai vus traverser. Oui.
Et donc, tout le monde ne voit pas ça quand même. Hein.
Comment?
Tout le monde ne le voit pas comme ça.
Non, et j'avais pas trop bu. Hein. Non. Mais c'est ça le fait d'être présent aux choses du monde. Hein, voilà.
Et en ça, ce poème, en cela, le poème est emblématique de ta façon de faire. Parce que c'est une poésie qui n'est pas lyrique, me semble-t-il.
Non.
Du tout, mais qui est très. C'est un regard. Vraiment un regard, mais un regard original. C'est positif. Oui, réaliste et positif. Parce qu'elle a des allumettes.
Voilà, j'ai des allumettes pour allumer, faire des étincelles.
L'allumette du regard, c'est une belle expression. Hein.
Ah.
L'allumette du regard, c'est une belle expression.
Oui, c'est vrai, on regarde et ça fait des étincelles. Et quelquefois, on les retrouve dans les poèmes. Voilà.
Par simple curiosité, je voudrais savoir, ça fait très longtemps que j'écris deux.
Ah là là, oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, c'est pas très original, je pense que j'ai fait comme la plupart des. Enfin, la plupart. On commence à écrire quand on est ado, non? Souvent, hein? Souvent. Voilà. Et puis, bon, certains arrêtent quand ils sont plus ados, d'autres continuent. Moi, j'ai continué, donc ça fait quand même un bail, hein? Oui, ça fait un bail. Oui.
Toujours en poésie?
Oui, j'ai écrit juste un récit, un seul, aux éditions La Dragonne, qu'on a qualifié de prose poétique, donc comme quoi le naturel revient au galop, voilà. Mais voilà, tout naturellement j'écris des poèmes. Oui.
Il serait encore une question par rapport au titre.
Oui.
Il me semble que dans ce livre. Outre le havre, il y a peut-être aussi beaucoup les jardins, la botanique, les arbres, les fleurs, et qui n'est pas présent dans le titre.
Oui, d'un autre côté, havre, avec un S d'ailleurs.
Avec un S.
C'est métaphorique, enfin, c'est pas un port, c'est pas la mer, c'est le refuge, hein, c'est le. Donc. Puisque ce n'est pas la mer, pourquoi il n'y aurait pas des arbres et des herbes et un jardin, quoi. Voilà, c'est ça. C'est voilà. Oui.
Bah, c'est métaphorique. Oui. Néanmoins, quand on entend havre, on entend la mer.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous revenez
oui.
souvent
Comment
Est-ce que vous revenez souvent ça sur votre premier texte dans la composition d'un poème? Ou est-ce que vous le remettez en question plusieurs fois? Ou est-ce que c'est pratiquement acquis dès la première inspiration? Ou est-ce que ça dépend?
Non, c'est jamais acquis. Bien sûr que non. Mais je ne peux pas parler de premier texte parce qu'il change de place. C'est peut-être même ce qu'il y a de plus difficile pour moi. C'est l'ordonnance des textes dans l'ensemble du livre.
Éprouvez-vous la difficulté de voir, constater quand un texte est terminé. Parce que ça, c'est la très très grande difficulté avant de l'allumer.
Oui.
Hein, ça, c'est. Éprouvez-vous ça dans cette forme resserrée?
Non, c'est-à-dire que ça, c'est pas une difficulté. Il y en a bien d'autres, alors tant mieux s'il n'y a pas celle-ci, mais non, c'est évident. Quand quelque chose est fini, alors un poème ou le livre, et c'est surtout plus surprenant, c'est le livre. C'est-à-dire, tout à coup, on se dit, ben voilà, pourquoi c'est mystérieux, on se rend compte que c'est terminé. C'est pas la peine d'ajouter quoi que ce soit, voilà. Et c'est pas une difficulté, ça. Parce que c'est enfin, en tout cas pour moi, ça impose d'évidence.
ceci dit, pour celui-là, il est quand même très fortement charpenté.
Ah oui.
On ne peut pas rajouter quelque chose en plus à un moment donné.
Oui, oui. Mais la charpente, comme tu dis, elle a été faite après. Enfin, ça se construit après quand même. Ça se construit après. Voilà. Mais tous les textes y étaient. Et voilà, je ne pouvais pas en ajouter. C'est très bizarre. Hein.
Et alors, pourquoi précisément cette charpente? Parce qu'on voit bien quelquefois des recueils où on lit des poèmes comme ça à volo, les uns se suivent. Et oui. Non, au contraire, là, on a affaire à une construction très, oui. très raisonnée, très réfléchie.
Oui.
Et là, c'est quoi? C'est un rempart? C'est un...
Peut-être. J'ai longtemps dit, mais maintenant je ne sais pas, je trouve que c'est un peu orgueilleux, alors je peut-être même un peu méprisant, donc je ne le dis plus et j'essaie de plus le penser. Mais j'ai souvent dit que je n'aimais pas ce terme de recueil de poésie.
Ah oui.
Parce que un recueil de poésie, c'est quoi? C'est on a écrit des poèmes pendant 3 mois, et puis après on les met ensemble et on en fait un livre. Ça pour moi, c'est un recueil de poésie.
Oui.
Mais on entend tellement dire recueil, 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 que bon, maintenant, je voilà. Ah, puis alors, bon, alors maintenant, on va dire recueil, recueillement, ça, c'est déjà mieux. Mais c'est pas ça, un livre. Enfin, pour moi, c'est pas ça, un livre. Ça, forcément, ça se construit. Un roman, ça se construit. Alors, un livre de poèmes aussi, ça se construit. Tu vois, ça se construit. Il y a une architecture, mais c'est peut-être aussi une façon de se protéger aussi. Hein,
de barricade,
ça... Oui, c'est ça.
Est-ce que la construction se fait au fur et à mesure, c'est-à-dire le chemin en marchant?
Oui et non, c'est-à-dire que non, la structure, elle se fait après quand même.
Ah, oui.
Mais s'il y a une structure possible, c'est que plus ou moins inconsciemment, elle y était déjà. Oui. Enfin, on y allait, quoi. Oui. Donc c'est ça.
C'est aussi ça. Que l'ordre est très important.
Oui, oui.
Si on mettait le poème à côté d'un autre, c'est très différent.
Ouais. Ouais. Quelquefois, je passe plus de temps à... Non, toi aussi je passe plus de temps à organiser l'ordre des textes qu'à les écrire, qu'à les avoir écrits. Et ça, alors, il y a une page qui passe par là, une page par-ci, une page par-là, et... Et 5 bis, 4 bis, c'est infernal.
Justement, à propos de l'ordre, je voudrais vous demander encore quelque chose, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a, dans vos recueils, dans les termes que vous avez mis l'un et l'autre, est-ce qu'il y a est-ce qu'il peut y avoir deux ordres, deux structures dans une œuvre poétique? La structure visible, celle qui apparaît tout de suite aux yeux, et aussi une structure secrète où, par exemple, une image procède d'une image suivante, et ça, c'est au lecteur d'aller rechercher ces transitions, si je puis dire, qui ne sont pas immédiatement visibles. Donc, je répète, il y a l'ordre visible, la construction évidente, et ensuite, il y a effectivement un ordre plus sinueux qui n'est pas un désordre, où les images procèdent les unes des autres, et où finalement suit un autre cheminement qui n'est pas du tout opposé au cheminement imposé.
Oui, c'est possible, c'est possible, bien sûr, le côté secret dont on parlait. Mais il n'est pas forcément volontaire non plus, dans le sens où ça peut être aussi, ça peut être aussi le lecteur qui le construit lui-même. Parce qu'on peut employer une image qui va en générer. Qui n'en génère pas une deuxième chez nous, mais qui va la générer chez le lecteur et qui va la retrouver ailleurs. Enfin, voilà. Le lecteur, il continue à faire le livre aussi. Hein. Il continue à faire le livre. Oui. Ouais. Ouais.
Ouais. J'ai trouvé très agréable la lecture de vos textes qui ont un rythme. La façon dont vous le dites est très plaisant. Et je voulais vous demander si vous avez l'occasion et si de les dire en public ou pour
les élèves. Oui, ça m'arrive, oui. Ça. Oui, ça m'arrive. Pas tous les jours, hein, mais ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Et c'est important. C'est important. C'est une autre existence pour eux et pour ces textes. Et on se rend compte.
Oui. La musique du texte, le rythme.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
c'est un peu aussi comme un collier de perles à recueil. C'est-à-dire que, je m'explique, ça peut paraître très banal ce que je dis, c'est que, dans le fond, effectivement, vous avez la construction générale, et puis chaque texte peut être soustrait et former à lui seul une unité que l'on peut dire, même si on ne prend pas en compte l'intégralité du recueil dans sa progression. Mm-hmm. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Oui, oui.
Ça,
oui.
C'est important aussi, je crois.
Oui. Maintenant, quand on pense lire le texte en public, qu'on ne lit pas tout, voilà. On est quand même obligé de se poser la question. Si je lis ce texte-là, il faut que j'ai lu celui-là avant.
C'est ça, bien sûr.
Sinon, il... Voilà. Oui, c'est ça. Oui.
Et alors, moi, je rebondis sur cette interrogation, à savoir que la structure qui est forte, comment la rendre à l'oral ?
Je sais pas. Il faudrait lire tout le livre pour que la structure.
Non seulement lire tout le livre, mais avec plusieurs fois.
Oui.
Parce qu'il y a des caractères italiques.
Oui.
Il y a des poèmes.
Mais pourquoi pas ? On aurait pu le faire d'ailleurs.
D'accord. Oui.
On aurait pu le faire. Oui. Mmh. Avec deux voix, oui. Oui. Mais d'autres.
Le dernier texte que vous avez lu.
Oui, mais ça clôt, hein. Enfin, ça revient au début et. Oui, oui, oui. Oui. Oui.
Je reviendrai peut-être à ce vers qui est assez joli et en même temps un peu angoissant, moi je trouve. Danser, danser au bord de la falaise. Il y a quand même un risque.
Oui.
Et on danse quand même.
On danse quand même, oui, oui. Mais c'est ça, vivre. Hein. C'est ça, vivre. C'est ça, aimer. C'est ça, aimer. Hein.
Ce serait l'effet Titanic.
Oui, danser au bord. Et alors, on. En fait, c'est quand j'ai écrit Danser au bord de la falaise, en fait, j'avais une image qui était celle de Pina Bausch.
Uh-huh.
Voilà. Voilà. Et particulièrement, Wenders a fait un film sur Pina Bausch et on voit ces danseurs danser au bord de la falaise. Et ça, c'est. Voilà, c'est le que ce soit de la danse, que ce soit de l'écriture, enfin tous les arts possibles, et l'art de vivre aussi. Et,
c'est une falaise au sens propre ou au sens figuré ?
Il y a tellement de sortes de falaises. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est les deux. C'est les dans le les danseurs de Pina Bausch dansent au bord d'une vraie falaise. Mais les falaises dans notre vie, on en longe tous les jours. Hein. On en longe tous les jours et il s'agit de pas tomber.
Un film absolument magnifique, c'est le 7e
Sceau. Si, bien sûr. Non, bien sûr.
À un moment donné, il me semble que c'est la nuit, il y a une espèce de farandole.
Oui, oui. Ce sont les comédiens. Oui. Les comédiens qui. Oui, 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 oui. Bon, c'est la falaise, c'est l'horizon, hein. C'est pareil. Ouais. Ah, qui joue aux échecs. Qui joue aux échecs, oui. Oui, oui, bien sûr. 7e Sceau, oui. Oui, 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 oui. Ça, c'est une scène inoubliable. Hein. Inoubliable.
Hein. Ouais. Et puis c'est quasiment en noir et blanc.
Oui, oui, oui.
Je revois la scène, effectivement.
Oui, oui, oui.
Y a-t-il d'autres questions ? Est-ce qu'on termine par quelques autres textes ?
Ah !
Ah ! C'est trop demandé ?
Non. Est-ce qu'il en reste ?
Moi, je crois.
Ou un autre...
Ah bah oui, très bien. Oui, oui.
Un autre...
J'ai deux, trois choses. Mais non, j'ai pas grand-chose. Est-ce qu'il est là ?
Si, je... Non.
Je vais... Ah bah non, je ne l'ai pas apporté. Non, j'avais apporté les tout derniers, au cas où, effectivement, mais puisqu'on est à la cargo...
On reste dans le domaine maritime.
Oui. Alors, autant Havre, c'est métaphorique, hein, autant cargo, c'est pas du tout une métaphore. Hein. Ce sont des poèmes qui sont nés d'un voyage sur un porte-container. Voilà.
On peut voyager sur un porte-container.
Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Ils prennent quelques passagers. Voilà.
Et alors, on couche dans les containers ?
Comment ?
Le bruit des machines.
Si, si, c'est formidable. Bon, alors maintenant, vu nos problèmes de planète, d'écologie, etc., hein, porte-container, Mais c'est un vrai bonheur d'être sur ces gros bateaux.
Ah oui ?
Oui.
Parce que ?
Bah parce que, voilà, je... Donc, il s'agit d'un voyage c'est un voyage que j'ai fait donc avec Werner, mm-hmm. il y a quelques années, 2014. On est parti du Havre, sans S, jusqu'à Malte. Il allait en Chine, hein, mais on s'est arrêté, voilà. Donc...
C'est un porte-container ?
Oui, oui. Les gros...
Les gratte-ciel, on ne les voit pas quand on est dedans.
Oui, c'était un des plus gros...
Est-ce que ça s'apparente à une croisière quand même ? Comment est la vie quotidienne sur un porte-container ?
Oui.
Non, ce n'est pas du tout une croisière. Enfin, ça dépend comment on le... Oui, il y a une belle cabine pour les 4 ou 5 passagers qui sont des passagers payants. voilà, on déjeune, enfin on mange avec les l'équipage le dimanche avec les officiers, le capitaine, et dans la semaine avec l'équipage véritablement qui sont en général tous des Philippins, oui, aussi bien les cuisiniers que les chauffagistes, etc., enfin tous ces gens qui sont dans une, enfin c'est une expérience extraordinaire.
Vous êtes, hein, une aventurière, un peu.
Oui, enfin je l'ai été.
Et alors combien de temps dure ce voyage?
C'est pas très long, le Havre-Malte, c'est sans escale, c'est une petite semaine.
Quand
une
même.
Petite semaine, voilà.
Donc,
petite
semaine. Il faut emporter un livre.
On peut être sur le pont.
Oui, bien sûr. Alors les quelques passagers qui sont là, ils embarquent avec des tonnes de livres ou des tonnes de disques, ou, etc. En disant, je vais... nous, on avait emporté quelques livres, pas beaucoup, mais puis un carnet pour écrire, etc. Rien fait de tout ça. On était vissés sur le pont et on regardait. Encore une fois, hein, on regardait quoi. C'est voilà.
On regardait les containers,
on regardait l'horizon, on regardait le soleil qui se levait, le soleil qui se couchait, les dauphins qui passaient, les gens sur le bateau. Voilà.
Donc on ne s'ennuie pas une semaine.
Non, bien sûr, non.
C'est une sorte de contemplation.
C'est ça, c'est de la contemplation, oui, oui. Oui, mais toujours, hein, toujours, rien, jamais j'écris sur le moment même, hein, jamais. Donc voilà, si vous voulez, pour...
Eh oui,
pour,
bien, partons en voyage.
Voilà.
Voilà.
Et j'ai eu la chance que ce livre, bon, bah, il est épuisé maintenant, mais qu'il a été, il a bénéficié des peintures de Annick Le Toer. qui est une femme peintre que je trouve très talentueuse, qui est la femme de Tahar Bekri, pour ceux qui connaissent le poète Tahar Bekri. Et voilà, des très belles choses. Voilà, je voulais Cargo, c'est aussi un peu son livre, donc il faut le dire. Voilà. Comment ? Non, à l'index, c'est Jean-Claude Tardif. Et Jean-Claude Tardif, écrivain et éditeur, est douanier au Havre. Mais c'est un hasard.
Oui, c'est bien. Non. Ben, Cargo lui a parlé, du coup.
Alors, quelques textes, si vous voulez. C'est fait. Le Havre dans le dos. Broutille pour le titan que de franchir le mascaret. Mais qu'en est-il de nous, passagers anodins, cargaison subalterne, qui cherchons notre place entre deux mondes? De pont en pont, comme autant d'épaules successives sur lesquelles nous hisser, déjà pour voir plus loin. Le géant reste impassible, indifférent à notre gratouillis d'insectes sur sa peau. Il n'y a rien. Grande table impeccable de la mer et sa nappe cirée. On y mangerait si l'on avait embarqué avec soi la faim ordinaire. Oui. Oui, alors celui-ci, j'arrive jamais à me souvenir des chiffres. 150 000 tonnes. 150 000 tonnes. Voilà, je vous lis le texte qui correspond à ça. 150 000 tonnes, finalement, c'est un bon pépère. Même mêlé de crainte, affection toujours pour les mastodontes. 150 000 tonnes. Teinte les câbles, cogne les rivets, c'est le chant des containers. Archer du vent, guimbarde d'air, voix de métal.
Avez-vous essuyé les tempêtes ?
Non, pas qu'une tempête.
Ah, c'est dommage.
Oui, aucune tempête.
Vous commencez.
Il allait en Chine, en Chine, jusqu'en Chine.
Donc tu n'as pas été bloqué dans le canal de Suez?
Non, je n'ai pas passé le canal de Suez. Non, non. Combien de jours vit une mouche? Celle-ci est née à Suez, Hambourg ou Tanger, embarquée par hasard pour une fin violente de voyage, écrasée à main d'homme contre la vitre du Sabord. Détroit, passé de nuit. Mais il fait si souvent nuit à Gibraltar. Radeau de réfugiés. Le cœur dans les ténèbres de l'angoisse et l'aube est si loin. Ah oui, les remorqueurs.
Pour sortir et pour rentrer.
Pour l'esprit d'enfance, les remorqueurs ont quelque chose de touchant. On les dirait sortis d'un dessin animé. Bateau lutin survolté, moteur sur les nerfs, Playmobil tout en muscles. On les appelle abeilles. Ils sont d'une espèce désintéressée qui ne butine rien. Dévoués corps et âme à leur bourdon, vrombissant maintenant plus que lui, resserrant leur ronde, tirant, calant et poussant de bon cœur.
tu parlais de Gibraltar tout à l'heure. Mmh. On sent sur le bateau le passage de l'Atlantique à la Méditerranée.
On sent le passage, parce qu'il n'y a pas eu de tempête, mais oui. le golfe de Gascogne est quand même réputé pour être très remuant, et ça remuait.
Là, ça remue.
Et dès qu'on passe le détroit de Gibraltar, tout de suite, là, c'est tout calme. Quoi. C'est tout calme.
Voilà. Est-ce que c'est cher, le porte-conteneur?
Alors, oui, je peux vous donner les oui, oui, tout à fait, mais tout à fait. Alors, oui et non, dans le oui, sens où, oui, alors c'était en parce que 2013, 2014,
oui.
Ah, il y a 10 ans,
oui.
10 ans. Une semaine par passager, 10 euros, tout compris.
Pension complète.
Pension complète, oui, oui, oui. Oui, 1000 euros. Voilà.
Oui.
Bon,
c'est pas une palace.
Bon, faut pouvoir le faire, mais c'est pas non plus.
Il faisait beau.
Oui, oui, il a fait très beau.
Oui, parce
très,
que c'est très important,
oui,
là,
oui, oui. Oui, s'il y avait eu la tempête, je sais pas, j'aurais peut-être pas écrit la même chose. Hein, mais, voilà.
Ouais. Vous avez les Malte.
Comment?
Oui.
Il y a Malte et Malte. Il y a Malte, il y a la Malte des plages, des boîtes de nuit, des séjours linguistiques pour jeunes survoltés qui apprennent l'anglais. Et il y a Malte des pêcheurs, il y a Malte des sites archéologiques extraordinaires.
Extraordinaires.
Voilà.
Merci beaucoup Patricia, encore
voilà.
D'autres questions.
Et bravo encore à Patrick. Merci à vous.
Tu as peut-être quelques livres que tu pourrais signer.
Ah si vous voulez, j'ai des livres, ah oui, si vous voulez. Oui, oui.
Je vous laisse vous approcher de la table. C'est tout.
Vous avez déjà félicité là, le cinquième
oui. Non, je l'ai pas lu, mais j'en ai dit, oui. J'ai pas encore lu Conrad. C'est un de mes objectifs. Oui, celui-là. Non. Oui, je sens. Oui.
Faites comme tout, mais je m'en prie parce que j'ai pas de chiffre.
Comment ?
Le prix du tout livre 4. Je crois que je peux passer dessous. J'ai pas pensé du tout.
Ah, c'est dommage.
Thank you.